Salut tout le monde, c'est FF Fanatics et vous écoutez le troisième podcast de Finaland. C'est le premier de l'année 2016, on est très très heureux de vous retrouver, on vous remercie énormément de nous suivre, toujours aussi nombreux. Dans cette émission, donc, on va en profiter pour revenir un peu sur les grands événements de l'année dernière, en 2015. On va également se tourner évidemment vers l'actualité qui nous attend cette année 2016 qui va être très très chargée, de chez Square Enix. Ensuite, on conclura l'émission avec un débat très épineux qui fait beaucoup parler autour de la table, c'est axé sur la communication de Square Enix ces dernières années. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, on va en parler un petit peu là-dessus. Et pour cela, on a une équipe, une bonne équipe qui est là ce soir, avec un petit nouveau d'ailleurs qui nous a rejoint, c'est notre ami Schrenig. Schrenig, est-ce que tu l'as prononcé?
Absolument, absolument. Bonsoir tout le monde.
Ah, bienvenue à toi autour de cette émission. On est ravis de t'accueillir. Ensuite, on a deux plus anciens qui étaient déjà là précédemment. On a bien sûr notre ami Mr. Cloud.
Salut tout le monde.
Ça va bien?
Alors, ça va et vous?
Oui, moi ça va toujours. Et en dernier, on a le retour de notre ami Noctis.
Hello à tous. Bah ouais, bien, je suis de retour.
Bah, on va parler un petit peu de FF15 aussi avec toi, vu qu'il y a eu un peu d'actu là, récemment.
Ouais.
On sort tout là-dessus au mois prochain et on aura plus l'occasion d'en parler d'ici là. Donc on va commencer tout de suite en parlant un petit peu de ce qui s'est passé en 2015, ce que vous avez aimé ou pas aimé, tout simplement, enfin un petit retour des événements ou même des jeux, de tout ce qui concerne Square Enix. Je vais commencer par toi, Noctis, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as aimé ou pas en 2015 chez Square?
Je pense que je noterai tout d'abord la sortie, enfin, de Type 0 dans sa mouture HD, suivi de la démo qui l'accompagnait, qui était très attendue également. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'était l'occasion pour moi de enfin toucher au jeu en comprenant cette fois-ci 100% de ce qui s'y passait, parce que j'avais commencé sur la version PSP à l'époque. Et puis surtout toucher à cette sacrée démo d'un jeu attendu depuis bientôt 10 ans. Alors tout d'abord, pourquoi Type 0? Tout simplement parce que j'avais tout de suite adhéré au gameplay quand j'y avais touché sur PSP, même lors des présentations en 2010-2011. Et donc là, sur manette PlayStation 4, c'était un bonheur. Bien, même si je dois t'avouer que j'ai pas trop aimé certains choix artistiques lors de cette mouture HD, notamment les couleurs ocre qui ternissent un peu la direction artistique, je trouve, du jeu. Et puis les problèmes de caméra, même si ça a été corrigé par la suite sur PC.
Ouais, la caméra elle bougeait beaucoup.
Mais sinon, je suis quand même légèrement déçu. Toujours à propos de ce même jeu, parce que finalement je trouve que le portage a été assez fainéant, même si Exadrive a fait quand même de sacrées prouesses, multiplier 10 fois la résolution de l'image pour tenir sur un écran 1080p, là, je trouve que le reste, enfin peu cache-misère mine de rien, à part les modèles principaux des personnages, le reste est vraiment très très fade, donc de ce côté-là je suis un peu déçu. Puis je pense que pour Final Fantasy XV, j'en ai écrit déjà un test, pour ce qui est, vous aurez mon avis à ce sujet-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Sinon, je reviendrai peut-être également sur Lightning Returns, qui a fait son arrivée sur PC, et qui pour le coup est un exemple à prendre, à suivre pour Square Enix, c'est-à-dire de faire un vrai portage optimisé, incroyablement beau, surtout quoi. Pour ceux qui ont connu le jeu sur PS3 360, c'était un peu la Bérésina, des chutes de framerate assez violents, des graphismes un peu pauvres. Là, tout ça corrigé sur le mouture HD, PC, c'est juste formidable. Donc là, pour le coup, jetez-vous dessus si vous n'y avez pas touché. Et sinon, j'aurais bien voulu peut-être toucher à The Life is Strange, même si ce type de jeu ne me plaît pas spécialement beaucoup. Je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est bien, pas bien. À vrai dire, j'ai vu beaucoup de bons, mais est-ce que c'est juste un effet de hype ou c'est autre chose?
Je sais pas. Ah oui, ouais, sur Life is Strange, c'est vrai que ça a pas mal fait parler cette année. D'ailleurs, on a écrit un très bon article cette année, récemment sur le site, un bilan. Vous pouvez le lire si vous avez fini le jeu, bien sûr. Je pense que Mister Peur peut nous en parler. T'as peut-être des coups de cœur ou des coups de gueule à dire là-dessus, tu y as joué, je pense.
Oui, en fait, j'ai joué récemment à Life is Strange grâce à la version complète qui est sortie sur console il y a une semaine ou deux, si je m'en souviens bien. Et en fait, donc, j'avoue, c'était vraiment un sacré coup de cœur. Dès que j'ai joué, en fait, j'ai accroché directement. L'ambiance, la bande son, en fait, les personnages, je trouvais qu'il y avait un travail sur le background que je trouvais pas, qu'on pouvait pas trouver partout. C'était même beaucoup plus passionnant d'écouter, de lire les documents qu'on pouvait trouver dans le jeu, alors les textos, les mails, les posts, que dans n'importe quel autre jeu. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et j'y accrochais tout de suite, en plus, la BO avec les nombreux titres qu'on peut, de rock indé ou de musique indé qu'on peut trouver. C'était directement un coup de cœur. Il y a une ambiance qui m'avait vraiment accroché. En plus, il y a aussi un côté artistique. Graphiquement, il n'est pas incroyable. Enfin, les modèles, ils sont assez faibles graphiquement. La 3D n'est pas incroyable. Mais il y a une patte artistique, il y a une direction artistique dans le jeu qui est vraiment incroyable, qui accroche directement. Je ne saurais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Et après, bon, j'étais un peu déçu par le jeu à cause de la fin. Scénaristiquement, c'était intéressant, mais j'attendais à plus de fantastique, un peu plus intéressant, et finalement, j'étais assez déçu. Donc, un coup de cœur, mais je pense qu'il prend une suite, il devrait revoir des choses.
D'accord. Bon, t'as quand même aimé, en général, le jeu.
Ah oui, mais en général, j'ai aimé. Franchement, c'était un bon boulot. Surtout, c'est des petits Français qui ont fait ça, donc...
Ah ouais, c'est notre pote.
C'est national, quoi.
Bon, on est content d'eux.
Ouais, on est content.
Il y aura peut-être une suite, donc on attend de voir ça avec impatience.
En tout cas, je serai là au rendez-vous pour la suite.
T'as d'autres choses à parler autour de l'année 2015 ?
L'année 2015.
D'autres événements ?
FF0 a déjà été, entamé par notre ami Noctis, donc je ne vais pas m'y atteler, surtout que j'ai à peu près la même vision. Mmh. Si je devais résumer l'année 2015 par rapport à Square Enix, je dirais l'E3. Avec les grandes annonces qu'on a eues. Surtout, FF7 Remake. Je suis un grand fan et tout, et donc revoir la licence comme on voulait, revoir la licence sur PlayStation 4, c'est vraiment impressionnant. Mais vraiment sur PlayStation 4, pas le portage PC, ça c'est autre chose.
T'as raison.
Mais c'est impressionnant. Et je pense que notre ami FF Fanatic a beaucoup plus de choses à dire dessus.
Oh, t'inquiète pas. En tout cas, c'est sûr que le 3, c'est certainement un des événements les plus marquants de Square Enix, on est tous d'accord, je pense. Que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs.
Ouais, FF7 Remake et Kingdom Hearts 3, ça a été claque, personnellement.
C'est clair. On va passer à Schrenig. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton année 2015 ?
Alors, mon année 2015 chez Square, beaucoup de déceptions, beaucoup.
On va avoir le coup de gueule.
Ah oui, là, il va y avoir du coup de gueule, mais en même temps, je suis un peu là pour ça,
Content de t'avoir, je sais pas.
Ouais, pour mettre des patates là où il faut pas. Pour moi, c'est tous les. Je vais parler de tous les remakes qu'il y a pu y avoir. Globalement, et tous les. Pas mal de portages aussi, plus ou moins bien faits. C'est pas forcément l'idéal parce qu'on peut voir des. Une ambiance qui était un peu qui pouvait être féerique, je pense notamment à Final Fantasy VI, qui a été bon. On va pas refaire le débat de quel est le meilleur FF, ça ne sert à rien. FF 6 reste de très bonne qualité et notamment le portage sur téléphone portable. La qualité est peu... C'est pas fou, on perd un peu dans la direction artistique pour au niveau des sprites et au niveau de plein de choses qu'il peut y avoir. Ouais. Avec tout le lissage qu'il y a eu, qui fait que l'effet de chibi rend moins bien. Après, le pire pour ces opus-là, ça reste les portages PC, parce que la maniabilité, le gameplay n'est clairement pas fait pour du PC, et c'est pas, c'était un simple portage de la version portable, donc iOS et Android, et ça rend pas forcément très bien. Mais bon, après niveau, bon, c'est toujours des jeux qui sortent. C'est toujours déjà ça. Mais je vous avoue que personnellement, je préférerais quand même que les équipes qui bossent sur les portages, je préférerais qu'elles bossent sur des jeux originaux. Ça pourrait être pas mal. Enfin bon, après voilà, c'est pour
faire de l'argent aussi après.
Oui, c'est vrai qu'il faut payer facile, un scénariste, oui.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur FF6, le portage PC est assez original, on va dire, dans les graphismes. Après, il y en a deux qui sont bien, comme celui du 9 qui va sortir prochainement, il est plutôt bien lissé, je trouve. Ça dépend de certains jeux.
Ah ben, bah, s'ils apprennent de leurs erreurs pour faire un portage qui est correct, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça peut permettre à plein de personnes qui n'ont pas pu y toucher d'y toucher, mais bon, après, ça reste que c'est pas un jeu original.
Donc toi, tu voudrais des nouveaux jeux, quoi. Ouais, y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi, je pense, là-dessus.
Des nouveaux jeux sur tous les supports.
Ah ouais, ça c'est sûr. Et même pour tout ce qui est portage sur mobile, etc., t'es pas trop pour non plus.
Bah... Alors, vu que je suis un énorme fanboy de FF5, j'ai pris le remake de FF5 sur mobile. Je l'ai fini à fond parce que quand on a que ça à faire dans les transports en commun, ça passe à peu près. Mais bon, les jeux portables, ça a quand même un gros problème, c'est que le tout tactile, au bout d'un moment, bah, le portable, il brûle.
Ah ouais, c'est clair.
Et ça fait super mal aux doigts.
Ouais, ça c'est pas faux. Après, c'est quand même une bonne solution pour un petit peu proposer tous les FF à ceux qui connaissent pas la licence, d'avoir de sortir sur smartphone, je pense. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils font ça. En dehors de l'aspect financier, bien sûr.
Bien sûr, mais j'ai presque envie de dire, dans ce cas-là, autant ne pas changer la patte graphique.
Ouais. D'accord, t'as autre chose à dire concernant l'année 2015 ?
Concernant l'année 2015, non, pas grand-chose. Après, ce sera plus concernant 2016. Bravely Second que j'attends forcément, mais bon, après, on verra bien.
On va parler tout à l'heure de ça, si tu veux bien. Ok, bah merci à vous trois pour vos avis. Moi, je vais donner aussi un petit peu mon avis sur l'année 2015. Bah, pour moi, le gros coup de cœur, bon, c'est sans trop de surprise, c'est le remake d'FF7. Hein. C'est une annonce que j'attends depuis tellement longtemps, hein. Même si c'est un remake que Shrinik n'est pas trop d'accord avec ça. Moi, je suis quand même content d'avoir ça.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, il y a quand même des gens qui me suivent, c'est bien. Parce que tout simplement, c'est mon jeu préféré de tous les temps, donc pour moi, c'est une énorme annonce. C'est la manière dont ils prévoient de le faire en faisant un jeu vraiment immense en plusieurs parties et plus s'attarder, et vraiment faire ça s'attarder sur un. Sur toute la compilation et faire vraiment un jeu qui sera différent des jeux originaux et qui va sûrement beaucoup changer pour ceux qui en connaissent le premier jeu, donc pour nous ce sera une nouvelle expérience, donc moi j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle expérience étant fan du jeu original que j'ai d'ailleurs refait sur PS4 avec le portage récent là. J'ai beaucoup apprécié de le refaire. Bon, FF7 on a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas trop m'attarder. Pour moi c'était mon coup de cœur, un peu comme Mr. Cloud, c'est l'E3 de Square Enix en général qui était assez exceptionnel. C'était un des deux meilleurs avec l'annonce de FF15, versus 13 qui est devenu FF15. Donc, pour moi, c'était des grands moments de cette année qui m'ont fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer. Donc voilà, après, j'ai joué aussi à Life is Strange, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé, j'ai beaucoup, beaucoup pris de plaisir à suivre ce scénario, à suivre ce nouveau. Apparemment pas un nouveau type de jeu, mais vraiment un jeu narratif qui te prend au trip et que t'as envie de suivre et d'attendre 2-3 mois à chaque épisode et t'en peux plus parce que t'as vraiment envie de voir la suite. Et pour moi, c'était vraiment pour moi le coup de cœur jeu vidéo de Square Enix cette année. Tabizor aussi, j'ai aimé, même si j'ai pas mal parlé, je suis d'accord avec vous. Après, niveau coup de gueule, je dirais que... ça fait partie du débat de tout à l'heure, c'est par rapport à la communication, donc on va pas trop en parler, mais je trouve qu'ils ont mal communiqué sur certaines choses. Ensuite, il y a eu des jeux ou des applications, notamment sur smartphone, qui ont été annulés dans l'année, donc on comprend pas trop pourquoi, et des jeux qu'on pourrait avoir et qu'on n'aura pas finalement en Europe, comme FF7 G-Bike, que moi j'attendais pas mal, et que finalement on n'aura pas pour les raisons de manque qui ne rapportent pas assez d'argent finalement. Pour moi, voilà, c'est quelques déceptions. Agito Plus aussi qui va être annulé sur smartphone. le dernier Mana qui va sortir, il est, sortira peut-être pas sur PS Vita. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont décevantes, surtout sur des annulations. Après, sinon, 2015 c'était pas très très riche en gros jeux. 2016 on aura beaucoup plus, je pense. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme bon jeu en 2015? Il y a eu Dragon Quest Heroes, quelqu'un qui a joué autour de la table.
Moi,
Ouais,
j'ai joué.
tu peux donner ton avis là-dessus un petit peu?
J'ai pas fini encore, j'avoue, je viens de l'avoir récemment, donc j'entame. Et je suis pas un immense fan des jeux de Dynasty Warriors, enfin j'en ai joué pas mal, surtout quand j'étais jeune sur ma PS2. Et au dernier, peut-être One Piece, Pirate Warriors.
Ouais.
Mais franchement, j'ai trouvé. Enfin, j'ai vraiment l'impression que Square Enix avait mis les moyens pour que le jeu il soit vraiment différent des autres. Il était vraiment, vraiment passionnant. Déjà, graphiquement, il n'a rien à voir avec ses acolytes de Dynasty Warriors ou One Piece, Pirate Warriors. Il est très, très, très beau. Il est nickel. La modélisation, elle est parfaite. Enfin, elle est géniale. Les monstres, ils sont vraiment très bien modélisés. Enfin,
C'est vrai.
retrouver l'univers de Dragon Quest en 3D, enfin, ben c'était vraiment impressionnant. Je suis pas un grand fan de la licence, surtout que j'ai pas joué à beaucoup de jeux de Dragon Quest. Mais là, il les voir en 3D et tout, en plus en taille réelle, par exemple, enfin, façon de parler, mais c'était vraiment vraiment cool. Et je trouvais dans le gameplay, ils avaient rajouté une sorte de, enfin, ils avaient vraiment trouvé un gameplay innovant pour ce genre de jeu, parce que ce type de jeu peut faire vraiment redite. Ça peut rester, enfin, c'est peut-être très classique à coup de tatane et c'est fini. Mais là, il y a vraiment un côté très stratégique avec des pièces qui permet d'invoquer des monstres, qui permet d'être beaucoup plus, enfin, qui permet de poser des endroits stratégiques dans la carte et ensuite ensuite attaquer des ennemis. Je trouvais qu'il y avait du gameplay vraiment, vraiment intéressant dessus. Et il y avait de l'innovation, ce qui m'a beaucoup surpris. Donc, c'est une grosse surprise.
Voilà, bah c'était quand même une bonne surprise, je pense, pour tout le monde.
Surprise, peut-être pas encore coup de cœur parce que j'ai pas fini et j'ai pas joué
Ouais.
assez pour bien juger, mais une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout.
Et au pire, il y a un test sur Final Round si vous voulez voir notre avis sur le jeu.
Exactement.
Bon, après, il y a d'autres jeux, évidemment. Il y a eu Rise of Tomb Raider sur Xbox One, sur PC récemment. Il y a eu Just Cause 3 qui est
Que tu as
sorti
fait?
aussi. Que j'ai fait, ouais, que j'ai bien. Bon, c'est pas un grand jeu, mais j'ai bien aimé parce que c'était fun à jouer, c'était un bon défouloir, c'est pas prise de tête quoi, c'est vraiment pour s'éclater quand tu rentres le soir, tu fais une partie, tu t'amuses bien quoi, il y a pas de prise de tête, pas de complications, c'est vraiment pour s'amuser. Moi j'ai bien apprécié le moment. C'est pareil, j'ai aussi un test sur Final Round si vous voulez voir notre avis là-dessus. Donc Just Cause 3, ouais, c'est un jeu qui a pas mal été marketé par Square Enix en plus, donc ils ont pas mal mis en avant. Je pense qu'ils voulaient un petit peu concurrencer les jeux open world du
Du
moment,
moment.
donc c'est différent, mais
Quoique la fin d'année était vachement. Enfin, Square Enix avait vachement la mamie sur la fin d'année. Enfin,
ouais, sur les
avec
derniers
Just Cause
mois
et les Tomb
avant Noël,
Raider.
c'était pas mal de bons jeux.
Rise of the Tomb Raider, qui est quand même une exclusivité Xbox One et qui finalement ne s'est pas vendu si bien que cela, même si Microsoft et Square Enix se disent satisfaits. Just Cause 3, effectivement. Final Fantasy. Enfin, Lightning Return sur PC.
Life is Strange qui est arrivé en janvier, c'est vrai, mais après, ça reste dans le coin.
Bah
Sinon, on
justement,
peut pas.
2016,
On peut
on va y venir après.
peut-être, avant de revenir à 2016, peut-être
Ouais.
un petit mot sur l'extension de F14,
Ah oui.
Joysword, à laquelle je n'ai pas touché, je préfère tout de suite prévenir, mais dont les échos se sont fait plutôt bien entendre de par la communauté à cause d'un système. Enfin, les joueurs ont la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de progression, que ça stagne, que le jeu commence à tourner vers le bashing. Ça
Ouais,
devient.
c'est ce que j'ai
Enfin,
ressenti aussi.
de ce que j'ai compris, de ce côté-là, les fans sont un peu insatisfaits et ça pourra peut-être causer quelques départs de ce jeu Final Fantasy XIV, surtout que des jeux venant d'Asie, ben, comme Blade and Soul, sont amenés, ou encore Black Desert Online, qui sont de sacrés concurrents. Donc, en espérant que pour nos amateurs de FF14, que Naoki Yoshida propose quelque chose d'innovant, ou en tout cas de satisfaisant. Voilà.
Ouais, FF14 qui perd un peu son aura par rapport à l'année dernière où il explosait tout. Là, c'est vrai qu'il déçoit un peu les fans, c'est dommage. Mais bon, on verra bien ce qu'ils vont en faire plus tard. Il y a encore des choses qui vont arriver. On espère. Bon, on va passer à autre chose à rajouter, Noctis.
Non, c'est tout.
Ça marche. On va passer donc à 2016, l'année qu'on vient de commencer. Il y a beaucoup de choses à dire sur 2016. Il y a beaucoup de grands jeux qui vont arriver quand même. Il y en a déjà un qui est sorti, FF Explorer. Alors, est-ce que quelqu'un y a joué?
J'y ai joué.
Ah, tu peux nous en parler un petit peu de maintenant qu'il est sorti, de ce que t'en penses?
Alors, j'ai fait un preview sur le site si vous voulez aller voir.
Ouais.
FF Explorer, en fait, j'ai surtout fait le début. J'ai pas pu expérimenter tout le jeu, malheureusement, surtout par manque de temps. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un jeu. Je suis pas un grand. Enfin, je joue très rarement sur les consoles portables, mais j'ai trouvé que c'était un Final Fantasy vraiment, vraiment sympathique. C'était un sorte de Monster Hunter dans l'univers de Final Fantasy, enfin, avec les bestiaires, l'ambiance cristal et tout. Mais il y avait un petit côté un peu le petit côté féerique qu'on pourrait trouver dans les anciens FF qui était présent, et franchement c'était assez cool. C'était un petit jeu défouloir qui me permettait de faire passer le temps. Après, il est vachement tourné sur le multi, donc j'ai personnellement pas pu tester, donc sur le coup je peux pas donner mon avis, mais il semblait qu'en fait que presque plus de la moitié du jeu soit tourné sur le multi, qui est apparemment, d'après les échos, vraiment vraiment bon.
Ouais, donc, t'as pas pu essayer encore en multi?
Bah non, pas encore. Et en plus, à chaque fois que j'allume ma manette, ma console, il n'y a jamais personne.
Ouais, j'ai pu jouer un petit peu en multi. C'est vrai que c'est vraiment utile pour certains boss qui sont très très longs à battre.
Ça, je me suis arrêté là, justement.
Ouais, voilà. C'est vraiment une fonctionnalité qui nous aide dans le jeu. Donc je pense que c'est très axé dessus, c'est important. Moi, c'est pareil, j'ai pas trop joué. Je suis encore assez au début. Hein, j'ai une dizaine d'heures de jeu, mais. Mais ouais, c'est vrai que c'est sympa à jouer. Après, il n'y a pas non plus un grand scénario ou ça ou quoi, mais c'est sympa.
Ouais, c'est juste un prétexte, le scénario. Après, c'est vraiment surtout pour le. Voilà. Après, j'ai pas forcément joué à Monster Hunter. Je crois qu'il y a un fan ici, mais après, voilà, c'est vraiment le côté tuer un monstre, revenir, ta quête et tout. Enfin, c'est quelque chose.
Voilà, c'est ça.
C'est des quêtes rébarbatives, mais en fait, qui peuvent se faire tranquillement quand on a le temps dans les transports ou quelque chose comme ça. C'est pas, c'est pas l'ambition d'un Final Fantasy XV.
C'est sûr.
Pas sur 3DS, clairement pas. Personnellement, moi, j'ai entendu un autre son de cloche de beaucoup de joueurs qui sont en fait très déçus de ce jeu Final Fantasy Explorers. Tout d'abord, moi, je sais ce que je pense, mais le définir comme Monster Hunter-like, c'est déjà peut-être un peu mensonger. Ça trompe directement le joueur, parce que pour moi, ça n'a pas l'air d'être un Monster Hunter Light, puisque bon, ok, il y a peut-être éventuellement quelques petites quêtes FedEx où il faut chasser telle ou telle bête, mais en dehors de tout ça, le jeu ne se rapproche pas tellement de ça qu'un Monster Hunter.
Ouais, c'est plus simple aussi.
Beaucoup plus simple. Oui. Et après, je sais pas du tout où on en est au niveau de la variété de gameplay, parce que bon, ben, le peu que j'en ai vu finalement, c'est quête FedEx, quête FedEx, quête FedEx, casser du boss, casser du boss, casser du boss plus, etc. Et puis.
Il y a des objets c'est pour tout. Faire des équipements et changer de classe.
Oui, c'est ça. Il y a pour faire des équipements, il y a plusieurs classes. On peut aussi acheter des compétences qu'on peut améliorer et les mettre dans son jeu pour changer son gameplay, pour personnaliser. Après, c'est ce que j'ai fait. Après, il y avait aussi quelques éléments de gameplay dans le terme d'attaque. Plus on fait d'attaque, plus on peut devenir puissant.
Oui, on peut se transformer aussi en perso de Final Fantasy.
Ce que j'ai pas pu faire, ça.
Ça permet d'avoir plus de pouvoir et d'avoir la musique du personnage en fond, c'est pas mal.
Ah
ouais, sinon, je trouve que ça se reproche plus d'un Fantasy Life que d'un Monster Hunter, dans le même style.
Je suis tout d'accord.
Petite quête assez simple, pas trop dure, des combats pas trop durs, des créations d'équipements, etc. C'est parce que Monster Hunter, c'est quand même plus hard que...
Plus hard, plus stratégique,
beaucoup plus.
Ouais. Et offre surtout une plus grande variété, même dans le bestiaire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors que là, man. Bon. Personnellement, ça m'a pas beaucoup plu, donc j'ai pas mis la main à la poche. Puis bon, finalement, même l'édition collector du jeu n'était pas si fameuse que ça. Je sais pas si un de vous a mis la main dessus, mais.
Ouais, j'allais le collector.
Les échos n'étaient pas très élogieux.
On s'attendait à une boîte plus grosse déjà. Était assez petite. Après, il y a un bon petit artbook, il y a un petit OST, bon, c'est assez classique, hein, mais ça casse prix là, ça donnait peut-être plus gros, plus fourni, mais bon.
Ouais, effectivement.
C'est un jeu 3DS, bon, c'est pas... Bon, on va passer aux jeux qui vont sortir prochainement. On va donner la parole à Schrenig, en premier. Qu'est-ce que t'attends en 2016, niveau jeux vidéo ?
Qu'est-ce que j'attends ? Dans 4 jours, on va sortir la démo de Bravely Second.
Ouais.
Et d'ailleurs, notamment sur notre Twitter, on a mis un concours pour avoir un code promotionnel, mais bon, sans doute qu'il sera déjà fini.
L'heure actuelle est terminée, ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, eh bien, voilà, c'est le jeu de 2016 que j'attends, Bravely Second, puisque Bravely Default m'avait donné une très bonne impression au niveau du gameplay. Au niveau de l'histoire, bon, bah, c'est un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave. Et pour ça que j'attends vraiment Bravely Second, parce que le gameplay, je sais qu'il est aux petits oignons, que c'est vraiment du gameplay comme je les aime. Et maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire au niveau histoire, au niveau voilà. J'attends vraiment de voir ça.
Ok. Oh, c'est cool. T'as quand même un nouveau jeu qui sort que tu attends finalement.
Chez Square, oui, quand même.
Bah, tant mieux. Par lui, des fois, t'as pas trop été repoussé par un petit peu le côté rébarbatif à la fin du jeu. Moi, ça m'a un petit peu gêné sur le premier.
Alors la première fois, oui. Après, je me suis mis à en rire et me dire c'est un jeu des 7 erreurs. Voir quelles sont les différences. Bon, attention spoil, hein. Voir quelles sont les différences entre les différents mondes. Après voilà, bon, j'ai poussé, j'ai fini le jeu en difficile à 100%. Après c'est quand même sympa quand on est au chapitre 8 en difficile de se dire bon, maintenant comment je vais passer ces boss là.
Ouais.
Parce que il y a
quand même du challenge, c'est sûr.
Ouais, il y a quand même du challenge. Et après, il y a notamment, bon, il y a un colosse que j'ai juste jamais réussi à battre parce qu'il est complètement abusif.
Ok, ça marche.
Petite question, du coup, qui a fini ici Bravely Default ? Parce que finalement, moi, c'est quand même une question un peu polie.
Moi, je ne l'ai pas et j'ai jamais joué. Et je voudrais y jouer.
Bah, moi, comme j'ai dit, je l'ai fini difficilement à cause de la fin, justement. Ça m'a un petit peu. J'ai mis la console de côté un moment parce que j'en avais un peu marre de faire toujours la même chose et j'ai mis du temps à le finir, mais j'ai quand même été au bout. Et c'est vrai que c'est pas très facile comme jeu, il y a quand même des combats assez difficiles sur la fin. Et c'est ça qui m'a déçu en fait, c'est la fin qui est. Même si le switch de fin est assez intéressant sur le scénario et tout, mais c'était le côté trop répétitif quoi.
Il est peut-être intéressant, mais il était un peu capillotracté quand même. Enfin bon. Après,
ouais, moi aussi, c'est vrai.
Après, par contre, un énorme.
Pas de spoil.
Ouais.
Ah, ils sont quand même sortis à un moment, ça va.
Ouais,
jouer.
Allez, spoil, c'est aussi capillotracté que FF8. Voilà, ça c'est dit. Donc ensuite, un truc qui était pas mal avec Bravely Default, c'était le fait qu'on pouvait annuler les combats. Dire qu'on ne voulait pas de combat. Et ça, c'est un élément de gameplay qui était assez intéressant, notamment quand on avait fini de farmer. Donc voilà, pour Bravely Second, j'espère qu'il va y avoir la même chose comme ça dès qu'on a fini de farmer. Et ben allez, c'est bon, on peut faire un peu le jeu en mode histoire.
Ouais.
En mode, on fait que les combats de boss.
Ouais, c'est une façon de voir aussi, c'est sûr. Alors, le suivant, Monsieur Cloud, toutes tes attentes en 2016 ?
Chez Square Enix, en fait, c'est. À moins que je me trompe, je vois pas grand chose. Enfin, si, j'attends beaucoup. Final Fantasy XV, mais je pense que je vais mettre ça à part. Parce que, voilà. J'attends beaucoup. Pas forcément de production japonaise, mais plutôt des Deus Ex. Human Revolution. Mankind Divided.
Ouais.
J'ai beaucoup apprécié le premier. Franchement, je crois que c'était. Enfin, le Human Revolution. Je crois qu'il m'avait. C'est un des jeux qui m'avait vachement marqué dans ma vie. Alors il était vraiment incroyable. Et là, le prochain qui semble dans la même lignée, qui a l'air vraiment passionnant, le gameplay il a l'air génial, graphiquement il a l'air fou. Alors je l'attends vraiment avec impatience. C'est peut-être le gros jeu de Square Enix que j'attends. Si je mets à part FF15, bien sûr.
Ouais, FF15, c'est un peu tout le monde qui l'attend finalement.
Voilà, ça, c'est un peu tout le monde qui l'attend. Et, ça, et comme j'ai un doute, je pense pas que Kingdom Hearts 3 ou FF7 sortiront cette année. Donc.
Je pense pas non plus.
Donc mon choix tombe sur Deus Ex.
Ok, très très bon choix. Je partage cet
Merci.
Avis.
On partage tous.
Noctis, tes attentes sur 2016 ?
Je pense que c'est facile à deviner. bon, c'est cousu de fil blanc, mais forcément Final Fantasy XV, mais bon, on va le mettre de côté. En dehors de ça, je pense que Shining va me taper, mais déjà les rééditions de Dragon Quest 7 et 8 sur 3DS, le 7 auquel je n'ai jamais touché, le 8 que j'avais adoré sur PlayStation 2, donc il y a plaisir de pouvoir les refaire sur console portable. Et sinon, j'aimerais bien savoir ce que va donner le projet Setsuna. Bon, je vous donnerai pas le nom complet parce qu'il est un peu long, mais voilà, c'est une de mes attentes. Peut-être aussi le Kingdom Hearts 2.8.
Ouais. Attends, faut dire le titre complet.
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ou un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça.
Enfin, parfait. Voilà. Ouais, c'est... Nomura et les titres de ces jeux, toute une histoire. Mais finalement, il y a quand même pas mal de jeux que j'attends. On peut encore citer Nier Automata, le prochain Star Ocean, enfin, quand même pas mal de jeux.
Ouais, il y a beaucoup de jeux en
2016. Bah, manifestement, oui, il y a pas mal de jeux en 2016. Espérons juste qu'ils soient bons et que ce ne soit pas la douche froide. Mais sinon, ouais, gros focus sur Final Fantasy XV, parce que bon, c'est pas que ça fait 10 ans que je l'attends, enfin, à peu près qu'il s'appelle encore Versus 13, même si Versus 13 et Final Fantasy XV ne sont pas les mêmes jeux, ça fait quand même 10 ans, et ben, 10 ans dans les dents, ben, finalement,
on prend un coup de vie.
On est quand même heureux d'atteindre ce jour de libération, enfin, cette année de libération, voilà.
Ouais, ça c'est clair. Ok, bah merci les gars pour vos attentes. Moi de mon côté, je vais aussi citer FF15, forcément, comme tout le monde, on l'attend tous, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour l'instant ce qu'on a vu, je pense que tout le monde l'attend avec curiosité, avec beaucoup d'envie. Donc on va pas plus en parler plus que ça, de toute façon il y aura plus d'actu à envisager et à décrire dans les mois qui suivent. En numéro 2, je mettrai aussi Deus Ex Mankind Divided, parce que j'ai adoré le premier, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré... le gameplay, les augmentations, le héros, donc c'est vraiment c'était un de mes jeux de la génération précédente. Donc celui-ci, j'attends avec impatience, ça sort en août. J'ai vraiment très très hâte. Ensuite, je citerai aussi Nier Automata, comme Noctis, parce que j'ai adoré le premier, et c'est aussi un jeu à l'univers différent, avec un scénario poignant, et là ça va être fait par Platinum Games, donc je pense que ça va être assez dynamique.
On l'espère. Voilà.
Ouais, je pense qu'ils
ont... Il faut peut-être faire attention actuellement avec les jeux de cette génération. On donne une année et finalement, on repousse tout de 3, 4, 5, 6 mois, voire plus. Ouais, on n'est pas trop à l'abri de genre de surprise, même si les éditeurs japonais sont plutôt dire clean là-dessus. Ils donnent une date, ils s'y tiennent.
Hashtag FF15.
Hashtag FF15.
FF15, normalement, c'est sûr qu'on l'aura cette année. Ça...
Là, mais non.
S'il le repousse, ce serait vraiment trop abusé. Je pense que ça va vraiment gueuler.
Après, ouais. Personnellement, je suis un peu curieux de voir ce que va donner Hitman. Pas tant pour le jeu, mais plutôt pour le modèle économique.
Ouais.
Le format épisodique, c'est quelque chose vers lequel beaucoup de studios se tournent pour pouvoir produire des jeux ambitieux, tout en ayant des rentrées d'argent régulières. Et cette peut-être une piste que va explorer Square Enix dans le futur, donc ce serait peut-être bien de savoir si ça marche, et si ça marche bien ou pas. Voilà. C'est une des petites bizarreries de 2016, à mon sens. Je sais pas trop ce que vous en pensez d'ailleurs à ce jeu-là.
Moi, j'ai toujours pas compris le modèle économique. Alors...
Tu peux expliquer notre piste un petit peu, le modèle
Grosso modo, tu as un premier pack de départ où tu auras des missions, et si tu veux continuer à avancer dans l'histoire, ben tu achètes la suite. En fait. C'est aussi simple que ça. Et dans le cas de Hitman, grosso modo, ça se traduit par un achat, c'est un pays, et dans chaque pays, tu as des missions. Voilà. Et donc, pour arriver au bout, ben tu dois acheter tous les épisodes, et si finalement le jeu ne t'intéresse pas, ben tu t'arrêtes la dépense, tu n'as pas le jeu complet. C'est peut-être paradoxal, mais au moins, bah voilà, tu sais que t'as pas aimé.
Il y a un scénario dedans ?
Oui, bien sûr, il y a un scénario, mais c'est comme Life is Strange, finalement. Si t'as pas aimé le premier épisode, ça sert peut-être à rien de continuer. Peut-être à rien de continuer.
Voilà. En gros, chaque chapitre, tu auras une ville différente, quoi. Ça va commencer avec trois villes, je crois, des villes. Quelque chose comme ça.
Le nombre de villes, ça, je saurais pas te
dire. Je sais qu'à Paris, au début, en tout cas.
Mais c'est en tout cas un modèle à suivre, parce que finalement, Final Fantasy VII Remake suit un peu la même idée.
Ouais.
enfin, j'ai l'impression. On verra un peu comment ça se traduit dans le futur, mais voilà, c'est quelque chose à suivre et ça va peut-être même se généraliser.
Ouais, ça peut être pas mal, c'est sûr. Au moins, ils essayent quelque chose de nouveau, donc c'est tout à fait honorable.
Tout à fait honorable, même si je pense que Hitman n'a pas du tout la même carrure qu'un Final Fantasy VII Remake, en termes de contenu, de richesse, etc. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'important.
C'est deux jeux différents, quand même.
C'est difficilement comparable, mais je pense qu'en termes de richesse et de contenu, on peut quand même faire quelque chose d'un Hitman, même si c'est faire du remplissage pour du remplissage.
Ouais. Personnellement, si c'est pour faire du remplissage, mieux vaut concentrer le truc. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis, personnellement. Vu les jeux qu'il y a actuellement, l'industrie du jeu vidéo actuellement, le surplus de remplissage, personnellement, me donne envie de vomir.
Bon, après, c'est quelque chose après, donc on verra bien. Ils ont déjà sorti un Hitman récemment, donc ils ont déjà fait un jeu complet. Là, ils essaient quelque chose de nouveau pour peut-être se lancer là-dedans, précisément après.
C'est totalement honorable, hein, faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et comme tu as dit, Noxus, une bizarrerie, c'est vachement intéressant à voir.
D'ailleurs, tu as un avis là-dessus, Schrenieg?
Alors, l'avis que j'ai sur les jeux épisodiques et ce genre de choses, c'est que ça peut être pas mal si on est sûr que tous les épisodes sortent. Alors, l'exemple que j'avais, c'était un jeu téléphone qui est vachement bien, qui est sorti par Square Enix. Qui s'appelle Imaginary Range. L'épisode 1 est sorti, l'épisode 2 est sorti. Le principe, c'était du comics interactif, plus ou moins, avec des mini-jeux pour permettre de tourner les pages, tout simplement. Et le 3, ça fait longtemps que je l'attends. Et je sais absolument pas s'il va sortir.
Ouais. C'est frustrant, ça.
Ouais, c'est ça. C'est dire, on est au milieu de l'histoire. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va pas continuer? On n'en sait rien. Donc, le format épisodique, ça peut être bien parce que effectivement, ça peut permettre de s'arrêter quand on veut. Mais il faut être sûr qu'il y ait tout qui sorte.
C'est sûr qu'après, si le jeu marche pas du tout, c'est le risque que ça s'arrête en plein milieu. Quoi. Après, les fans, ils sont un petit peu lésé.
c'est sûr. C'est vrai que Imaginary Range, c'était des jeux gratuits qui fonctionnaient avec des publicités. Ouais. C'est sans doute pas le modèle économique le plus efficace, mais bon, il n'empêche que c'était des jeux d'une très bonne qualité.
Il y a un avantage et un désavantage à ce système-là. Et des deux côtés, autant pour un éditeur que pour le joueur. Donc, le désavantage, c'est que finalement, il n'y a pas de suite parce que ça ne marche pas. Et de l'autre, que si ça marche, on continue. Et si tu as toujours cette même qualité, ou même une amélioration dans ce format-là, c'est peut-être tout bénef. Donc, je ne sais pas, on peut pas faire vraiment de généralité actuellement. Il faudra vraiment voir quel horizon se dessine si ce format se généralise. Mais je comprends tout à fait ton point de vue.
Écoutez, merci pour toutes vos attentes. C'était très enrichissant, il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y en a encore d'autres qu'on n'a pas cités, on peut se dire World of Final Fantasy par exemple, sur PS4 et PS Vita, qui est un peu une sorte de Pokémon-like dans l'univers de FF, ça peut être pas mal je pense pour les fans et pour les jeunes.
Il me donne sacrément envie moi personnellement.
Ouais, c'est super mignon et tout, moi j'attends aussi pas mal, j'attends de voir ce que ça va donner. Après il y a pas mal de jeux qui sont sortis aussi sur tout ce qui est smartphone, PC, d'autres remakes encore évidemment, des portages.
Final Fantasy 9.
FF9, effectivement.
Aussi, oui. Peut-être Tomb Raider sur PS4, peut-être.
Voilà. Ouais.
Sorti sur PC, pourquoi attendre la version PS4?
Ah, pour ceux qui
parce que j'ai pas de PC.
Oh, ouais. Pourquoi pas?
Sur PC, il a des bons retours, ce que j'ai vu.
Clairement, au-dessus de la version Xbox One, mais on va encore pas mentir. La version Xbox One se défend quand même plutôt bien, soyons pas mauvaise langue. Ouais. C'est plus en termes de contenu que ça pêche, manifestement, mais on verra.
Ok, merci à tous pour cette toutes vos informations sur la 2015-2016. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission qui va concerner la communication de Square Enix. En fait, il y aura beaucoup de choses à dire. Un gros débat, je pense, autour de la table.
Oh,
on se retrouve tout de suite. C'est bon ça. propose Bookie, c'est l'artiste Yadei. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à voir la vidéo sur YouTube. C'est extrêmement drôle aussi. Si vous voulez, voilà, vous faire partager un petit moment de bonheur, vous faire danser un peu. Allez, c'est parti. Et on se retrouve en deuxième partie pour le débat habituel de notre podcast. Cette fois, on va se pencher sur un débat un petit peu épineux qui nous fait pas mal parler dans la communauté en général de Square Enix. C'est la communication qui est parfois désastreuse et parfois géniale. Ça dépend des moments et des jeux. Donc, on va un petit peu revenir sur une rétrospective d'avant. Les premiers Final Fantasy, on peut dire qu'avant ils n'avaient pas besoin de communiquer tant que ça, parce que même s'il n'y avait pas internet ou ils n'avaient pas besoin de communiquer finalement, parce que c'était des jeux qui se vendaient quoi qu'il arrive, que ce soit FF7, 8, 9, 10, enfin avant le 13, c'était des jeux qui n'avaient pas besoin de grande communication pour marcher, donc c'était assez bien. Depuis, il y a eu beaucoup de changements, notamment avec je pense la saga FF13. En tout cas, moi je veux taper du poing sur la table. Parce que j'étais newsmaker pendant toute cette époque, ça fait quelques années déjà. Et c'est vrai que la trilogie FF13 m'a plutôt dégoûté de la communication de Square. Tout simplement parce qu'ils en disaient trop en fait, sur le jeu. Il y avait beaucoup trop d'informations, de trailers qui dévoilaient des moments cruciaux, du scénario, des personnages, de toutes les régions. On voyait tout avant la sortie du jeu. Donc moi j'étais obligé de newser ça, vu que c'était un petit peu mon rôle, et je voulais pas me niquer le suspense sur le jeu, mais j'étais obligé de tout voir, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Je sais pas si vous l'avez ressenti pareil, vous aussi, s'ils en ont peut-être trop dit sur certains jeux, notamment sur la trilogie FF13. Je me rappelle notamment sur Lightning Returns, ils avaient dévoilé le boss de fin dans des scans, sur 13.2 ils avaient montré toutes les régions, enfin ils avaient montré des trailers où on voyait des scènes vraiment importantes du scénario, toujours sur les Tyritans ils ont montré quasiment toutes les régions du jeu dans les trailers pour tout décrire, aussi les personnages qui y intervenaient, qui n'étaient pas censés intervenir, qui étaient secrets, enfin on savait tout avant la sortie du jeu, donc c'était ça gâchait vraiment la surprise. Je sais pas si vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus.
Eh bien moi je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, il y a une sur information, c'est vraiment devenu de l'obésité, on n'apprend plus rien, on découvre plus rien, c'est triste au possible. Je comprends même pas pourquoi Square Enix s'est décidé à communiquer autant sur cette trilogie. Je sais pas si c'est pour peut-être combler tout ce manque d'informations dû au développement désastreux de la série ou pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça reste un peu triste de perdre en fait. C'est la magie de la découverte qu'on avait dans les anciens Final Fantasy. Ouais. D'ailleurs, comme tu l'as dit précédemment, on ne fallait pas vraiment parler de Final Fantasy, à part les grands sites, et même encore avant l'Internet, les magazines, l'information se faisait minimale, et pourtant ça marchait bien. C'était tout ce qui était bouche à oreille, dans les cours de récré, on parlait des jeux, et puis c'est tout. Et ça marchait, plutôt bien, hein, puisqu'il me semblait que la saga, si elle est perdue autant aujourd'hui, c'est que les précédents épisodes ont marché. Et donc oui, je me pose vraiment des questions sur les choix marketing de Square à propos de sa saga. Pourquoi elle en parle autant? Surtout que, comme tu l'as dit, beaucoup trop de spoilers. Et vraiment, ça gâche tout, ça gâche tout.
Alors j'ai aussi l'impression que peut-être que sur la saga FF13, donc le passage sur la PS3, Xbox 360, peut-être qu'ils voulaient aussi toucher un public plus large. Donc, ils ont voulu vraiment beaucoup parler du jeu, beaucoup présenter le jeu. Et c'était aussi un jeu plus axé à action, donc vraiment le jeu était élargi. Donc peut-être que là ils ont voulu trop en faire. Et finalement pour les fans, c'est un petit peu gâché le suspense peut-être.
Ouais, c'est vrai que j'avais pas faux. Personnellement, c'était l'époque de FF13, j'étais pas vraiment présent. Enfin, je faisais pas vraiment attention à la communication de Square Enix, mais je me souviens parfaitement qu'à la sortie des FF13, il y avait un surplus d'informations, de thrillers. J'avais même vu un thriller de Final Fantasy XIII au cinéma avec Leona Lewis qui chantait. Franchement, je trouvais ça totalement,
magnifique,
tellement abusif, sans devenir fatigant, quoi. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe?
D'ailleurs, tu parles de ce trailer, mais justement, c'était le trailer officiel qui était diffusé un peu partout, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Trailer qui, encore une fois, en révélait beaucoup trop. On voyait beaucoup trop de régions, tous les personnages, les invocations, entre guillemets. En plus, sur un fond musical qui tranche beaucoup avec que fait habituellement la saga. Personnellement, Final Fantasy XIII, pour ce qui est de sa communication, au tout début, j'avais pas l'impression qu'on en parlait tellement que ça. C'est vraiment, on va dire, peut-être les 6 à 9 derniers mois avant la sortie du jeu, où on a commencé à voir plein de screens dans les magazines, des vidéos à tire-larigot. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que entre ce qui avait été dit au début et ce qui est finalement le produit final, il y a beaucoup de différences. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ça.
Moi, j'ai pas trop de souvenirs personnellement de ça. C'est vrai qu'il fallait, comme j'avais dit tout à l'heure, quoi. Final 13, il y a eu vraiment un surplus d'infos et surplus de. Enfin, tout le monde en parlait. Pour finalement, il y a eu pas une hype, mais il y a beaucoup d'attentes qui étaient imposées alors dessus. Pour finalement, pas grand-chose. Il a fait que décevoir, rien d'autre. À cause, à mon avis, de cette surplus de ces informations. Enfin, de ces thrillers, de ces articles et tout ça. Genre, c'était un tout qui a.
Ça m'a plus dégoûté avant d'avoir le jeu, parce que le jeu, j'ai plutôt aimé le 13, le 13-2. Elle est un peu moins, mais bon, après, c'est personnel, mais c'est plus avant d'y jouer que quand t'as vu tout le jeu, tous les personnages, tous les décors, t'as plus de découvertes, quoi. S'il y a tout ce qu'il y avait avant dans FF, quand tu t'achetais le jeu, tu savais quasiment rien, tu découvrais de A à Z, c'était vraiment différent, quoi. Est-ce que Schrenig a quelque chose à dire là-dessus?
Eh bien, absolument. Par rapport à ce surplus d'informations, sans doute que ce que ça créait, c'était de s'attendre à ce que ce qui soit révélé ne soit que la partie émergée de l'iceberg, et alors qu'en fait, pas du tout. Justement, ça fait que comme ça, on s'attendait à avoir la découverte. Encore ce sentiment de découverte tel qu'on pouvait l'avoir dans les anciens FF quand on les achetait et qu'il y avait moins de communication. En fait, non, puisqu'on connaissait déjà tout.
Ouais.
On peut peut-être faire l'analogie avec tout ce qui est bande-annonce de films de cinéma. Au cinéma, on a toujours les meilleures parties en espérant peut-être qu'il y aura plus dans le film, mais finalement, ce sont déjà les meilleures parties et toute la découverte, elle est gâchée.
Absolument.
Ils montrent le meilleur dans les trailers, quoi. C'est un peu dommage.
Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui se répète sur tous les jeux. C'est vraiment sur Final Fantasy XIII. Donc je pense qu'il y a c'est vraiment relatif à des responsables marketing de ce point de vue-là, parce que finalement, si on regarde un peu tous les autres jeux que l'éditeur nous a offert, ça se passe pas exactement de la même manière. On pourrait passer aux jeux sur console portable ou même les autres Final Fantasy comme le 14, on n'essaie pas de nous matraquer à coups de trailer, à coups d'informations. Enfin, ils utilisent un autre canal de communication, donc on en parlera peut-être un peu par la suite, mais que je trouve beaucoup plus sain et finalement qui donne plus envie de découvrir que le contraire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez avec tout ce qui est lettres live de Final Fantasy 14.
Ouais, ça c'est sûr.
Non, les lettres live, personnellement, je n'ai jamais suivi. Donc je pourrais pas commenter dessus, mais après
c'est un bon moyen de communiquer pour les joueurs, pour les fans du jeu, quoi. C'est des moments assez c'est pas tous les jours, quoi. C'est régulier, mais c'est bien organisé dans le temps de d'organiser ce qu'ils vont montrer, ce qu'ils veulent montrer ou pas. C'est plus organisé, quoi. C'est mieux.
Parce que justement, c'est un point positif, moi, personnellement, que je donnerais à Square Enix, parce que je trouve que c'est un des rares. Enfin, pas seul, je pense pas seul, mais un des rares éditeurs à vraiment donner constamment des informations sur le jeu, sur leur production, enfin, ces dernières années, quoi, avec les lettres live et les ATR. J'ai pas personnellement en tête d'autres éditeurs ou développeurs qui entament ce genre de procédé de communication. vraiment mettre les fans, enfin, présenter les produits aux fans, toujours leur faire montrer comme quoi le jeu existe et il est toujours là. Après, Square Enix, c'était un problème pour eux, donc ils devaient régler ça. C'est la seule manière de ramener des fans, mais sinon, je trouve que c'est vachement honorable, ce genre de.
Ouais, puis ça permet aussi une proximité avec le joueur, parce qu'on voit vraiment le travail des développeurs au fil du jeu. On voit vraiment que le producteur est proche des joueurs, qu'il les écoute, qu'il leur demande ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un rapport avec le joueur et l'équipe qui est vraiment plus sain qu'à l'époque où on ne demandait rien et finalement on avait tout qui arrivait et on était un peu déçu à la fin.
Mais la question qu'on pourrait se poser à ce sujet de ce format de communication, c'est pourquoi finalement ce format de communication, parce que Final Fantasy XIV est quand même un jeu un peu spécial, il a eu une V1 complètement catastrophique qui a été complètement remodelée en V2, c'est pas une manière qu'a trouvé Naoki Yoshida pour rassurer les joueurs de la bonne voie que prend le jeu, parce que finalement est-ce que c'est vraiment juste pour communiquer avec les joueurs ou si c'est pas une façon de se dédouaner, de se rattraper des erreurs commises par le passé? Je sais pas vraiment, parce que ouais. Bon, là, le format perdure parce qu'il marche, on garde, comme vous dites, une proximité avec les joueurs. Mais j'ai vraiment l'impression que la base de ce format-là n'était pas d'abord la communication juste pour dire « Regardez, le jeu, il y a ça, on a bien écouté ce que vous avez dit, mais vraiment juste en mode pardon, on voulait vraiment faire un bon jeu, et là, regardez, signe de nos bonnes foi, on vous montre tout ce qu'on fait. » Voilà.
Carrément, personnellement, j'ai le même avis que toi. Hein. Ce genre d'initiative, ce genre de manière de communiquer, c'est vraiment une façon de s'excuser auprès des fans, auprès des joueurs. Enfin, je pense que c'était vraiment l'objectif premier. Et en fait, je pense que ça reste toujours l'objectif, surtout pour Final Fantasy XV avec les ATR. C'est toujours un moyen de s'excuser de ces 10 longues années.
Pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. C'est que Tabata a emboîté le pas à Naoki Yoshida en reprenant sa recette, en la modifiant légèrement, mais juste pour dire « Bon, ok, Versus 13, vous attendiez, les amis. »
C'est bien, mais
là on va vous montrer que finalement on bosse vraiment sur le jeu, c'est pas juste des déclarations un peu laconiques en disant oui je peux pas trop vous en parler parce que ouais, ça, j'ai l'impression vraiment que ça reste encore une façon de juste rassurer le joueur, et c'est peut-être, je me demande du coup vraiment c'est quoi le but premier de ce type de communication. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que à terme, est-ce que c'est quelque chose de viable, surtout qu'en plus c'est quand même une communication qui s'adresse avant tout à des personnes à qui on a déjà prêché la bonne parole, qu'on a déjà converti, enfin ouais, c'est un peu
ça s'adresse aux fans,
c'est des amateurs de la licence qui vont revenir vers assister à ce type de rendez-vous.
Moi je pense que la TR et la lettre F, c'est vraiment j'espère que ça va juste se limiter à FF14 et FF15. Personnellement, je verrai pas du tout ce genre de communication sur leur prochain jeu, ou en tout cas personnellement je craquerai, hein.
Sur le 14, je trouve ça normal vu que c'était un MMO, donc t'as toujours du contenu, donc c'est normal de communiquer beaucoup. Sur FF15 c'est plus étrange, mais vu que ça a bien marché sur le 14, ils ont emboîté, comme dit Otis.
Sur FF15, parce que c'est un jeu aussi
qui a posé
beaucoup de problèmes. Voilà, le temps d'attente, les gens qui veulent savoir où est-ce qu'il en est le jeu. C'est un peu. Il n'y a pas longtemps, il faisait partie de la liste du top 10 des Arlésiens, quoi, dans les jeux Arlésiens.
Ouais, je crois qu'il en fait encore partie, non ?
Ouais, c'est sûr.
Il n'est pas encore sorti, donc techniquement, il pourrait encore y figurer.
Ils avaient des choses à clarifier là-dessus. Vous avez pas mal de choses à clarifier sur FF15, donc c'est bien de
en parler. Ils ont pas mal de choses à clarifier, mais après, je pense que ce format s'applique bien à Final Fantasy XV si et si seulement le contenu suit, parce que finalement, il nous révèle quand même pas mal de choses. Donc, c'est quelque part nous retirer le plaisir de la découverte de ces éléments-là. Donc, soit Tabata a vraiment confiance en la richesse de son jeu, il a hâte pas de le répéter d'ailleurs, donc j'espère vraiment qu'il en aura cette parole. Ou alors, soit c'est vraiment la douche froide et finalement on nous aura révélé les grandes lignes et on aura juste les petits détails. et ce sera pas cool, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais ouais. Moi, ça me gâcherait vraiment, mais vraiment, le plaisir du jeu si finalement on apprend que tout ce qui nous a été montré, c'est genre 80% de l'histoire, quoi. Enfin,
ah, j'espère vraiment qu'ils vont garder un côté assez mystérieux sur le scénario, ce qui est pour l'instant actuellement le cas. Bon, c'est pas grand chose, et franchement, c'est amplement suffisant de garder ce petit mystère, et ça marche dans presque tout, dans plein de jeux ou plein de films. Hein. On regarde Star Wars récemment, ou même Metal Gear Solid, il y a un petit côté mystérieux qui justement faisait le buzz, qui teasait le jeu.
Mais il y a le sens de la mise en scène. Là, on parle déjà d'un jeu de Kojima et puis du cinéma. C'est pas spécialement. C'est pas la même chose. Je veux dire, Kojima, c'est déjà un monstre qui adore justement le cinéma et donc qui a tout fait pour reprendre certains codes. Si tu prends d'autres jeux, tu verras que la communication est un peu différente. C'est pas, on va te montrer des morceaux de gameplay, on va te montrer quelques petits dialogues pour te donner l'eau à la bouche, et puis basta. Donc ça reste assez générique.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu penses quoi, Shrinei?
Alors,
j'ai bien dit ton nom, excuse-moi.
Sur ce format.
C'est pas grave. Ça. Moi, ce que je pense sur cette communication en live, c'est que c'est pas seulement une façon de rassurer les joueurs, mais aussi qu'eux ils se rassurent eux-mêmes en se disant voilà, on n'est plus à diffuser des informations sur des sites internet et qui ensuite sont repiquées par tout le monde ou dans des journaux ou compagnie, que vraiment on est en face des joueurs, on est en face de leurs attentes et qu'on montre nous ce qu'on essaie de faire, et que c'est sans doute pour eux que un moyen donc autant de se justifier que de se rassurer.
Ouais, ils sont bien dans leur pompe, quoi, finalement. Dire on a fait notre part du contrat, on a tout respecté, on est honnête avec vous, donc n'ayez pas d'attente trop élevée, parce que bon, bah, finalement, Final Fantasy versus 13 et même le Final Fantasy 15 en 2013 a quand même été fort fantasmé, quoi. Ouais. Avec toutes les déclarations de Nomura qui faisaient quand même rêver à l'époque. Bah, aujourd'hui, on en arrive à des gens qui sont en mode moi j'attends ci, ça. Alors quand Tabata arrive et qu'il te dit finalement il n'y aura pas ça, et qu'en plus tu supprimes des personnages et des parties de l'histoire, c'est un peu mal, mais au moins ils sont honnêtes.
Oui, ouais. Ça au moins c'est sûr que on peut pas les accuser de pas être honnête pour ce dont ils parlent. Là, c'est sûr.
Et d'ailleurs, peut-être on pourrait revenir un peu sur ces éléments propres à Final Fantasy XV. Parce que
sur FF15, je trouve que la communication est un peu mieux maîtrisée parce que ils préparent bien ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont pas dire, mais par exemple, ils n'ont pas tout montré. Je pense qu'ils se sont concentrés beaucoup sur une région en particulier qu'on a beaucoup vu, donc du Sky, etc. Mais énormément sur le jeu qu'on n'a pas vu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Il y a beaucoup d'invocations qu'on n'a pas vues. Il y a des personnages cachés encore qui sont mystérieux. On n'a pas vu le boss de fin. Voilà.
C'est déjà pas mal.
Donc, c'est quand même assez maîtrisé, je pense.
Ils font du teasing sur le boss de fin, par contre. Hein. Dire qu'il est plus badass que Sephiroth,
tant qu'il le montre pas, ça va.
je suis assez curieux de ce point de vue-là, effectivement. Déjà, je pense que le point numéro, enfin un des très bons points de cette nouvelle communication, c'est qu'elle est régulière. Là ouais. où celle de versus début 15 était très sporadique. Autre bon point, on voit réellement les avancements. Hein. On a vu des vidéos qui montrent l'état du jeu. Vous voyez les progress reports. Quoi. J'ai pas l'impression que j'ai déjà vu ça. Je me rappelais pas avoir vu déjà ça quelque part. Encore donc signe de leur bonne foi et que les choses sont en bonne voie. Après, je pense que malheureusement, forcément, une perte dans la découverte, parce que on nous montre des choses et forcément qu'on le veuille ou non, ils sont obligés malheureusement, parce que avec tout ce qui a déjà été déclaré et finalement tout ce qu'il faut démentir, C'est assez compliqué. On peut notamment se rappeler du douloureux Active Time Report numéro 6 en juin, où Tabata a préféré mettre les points sur les i et dire ce qu'il fallait dire. Donc, je vous rappelle, plus de Stella, elle est remplacée par, par Luna Freya. Ouais, voilà, Luna Freya. Et puis, toute la séquence d'invasion est supprimée.
Voilà, mais il y a aussi une déception là-dessus, c'est que ça a été assez, ça a été assez mal communiqué, quand même, ce passage de Darkseid 13 à FF15. C'était quand même très maladroit, quoi.
Très maladroit.
La barrière entre les deux jeux est encore floue, hein. Les gens, enfin, ils disent que c'est plus le même jeu, mais finalement, on voit pas trop ce qui est différent. Enfin, c'est assez compliqué à voir. Même moi, j'ai du mal à expliquer la différence. Enfin, il y a comme quoi c'est deux jeux totalement différents, alors que ils se ressemblent. Quoi. Enfin, pas qu'ils se ressemblent, mais pour dire la base est toujours la même.
Bah, c'est assez drôle parce qu'au début, donc quand Tabata était annoncé réalisateur et qu'il a donné ses premières interviews, il a quand même dit que le jeu serait pas trop différent de Versus 13. Finalement, que oui, les idées principales seront conservées, on va modifier le minimum possible l'histoire et tout ce que vous voulez, quoi. Et puis, au final, il en arrive à dire « Oui, mais en fait, Versus 13 et Final Fantasy XV, c'est pas le même jeu. Mm-hmm. » Bah, ce serait peut-être bien d'être clair dans vos déclarations, dans ce que c'est de faire passer comme message. Moi, personnellement, je suis plus dans l'optique de dire que Versus 13, c'est en fait ce qui sert de base, mais que bon, le projet est mort. Que Final Fantasy XV est vraiment un autre jeu, mais basé sur, comme ils ont dit, les idées principales. Mais ça, encore une fois, c'est pas bien passé.
Bah, ça a été mal compris aussi par la communauté.
Les fans attendent Versus 13 et c'est encore fou dans leur tête, quoi.
Ouais.
Encore une fois, bah, ça montre que Square Enix a quelques soucis de communication, mais après, je pense que c'est pas intrinsèque à Square Enix. Mais plutôt à la culture, parce que l'Occident et l'Asie, ça ne communique pas de la même manière. Et quand on se souvient qu'en 2014, de nouveau, que Tabata nous dit que le jeu sera un peu casual, pour juste dire que les commandes seront simplifiées, ben, les joueurs, enfin, partie des joueurs, à la minorité toujours très bruyante, a dit « Oh mon Dieu, ce sera un jeu automatisé comme Final Fantasy XIII, ça va être nul ». Et ils commençaient à ouin ouin ouin, c'est pas cool. Encore une fois, c'est un problème de communication.
C'est mal
les mots ont été mal choisis.
Oui, carrément.
Et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ce serait bien que dorénavant ils arrêtent de ce genre d'impair, parce que ça. Ben, le soufflet retombe finalement. Donc, ok, c'est bien de donner plein de très bonnes nouvelles, mais il en suffit d'une seule. Pour tout ternir, finalement.
Ouais.
Rappelez-vous, on peut reprendre juste Final Fantasy VII Remake. Quand on a dit, ouais, Final Fantasy VII Remake, on nous a montré du gameplay, c'était quand lors de la Jump Festa, je crois. Non, le PlayStation Experience.
Non, c'était en décembre. Novembre-décembre.
PlayStation Experience.
Ouais, le PlayStation Experience. Ouais, et juste après, on te dit, mais en fait, le jeu sera épisodique. Rappelez-vous,
ils ont tout expliqué après. En fait.
Oui, là, c'était...
Ah oui, mais finalement, les gens étaient déjà en mode « Ah, mais mon Dieu, un jeu épisodique !» Et de nouveau, ça pleure dans les chaumières.
Ça, c'est pareil, ça a été mal compris aussi.
Ça a été mal compris.
Mais ça, c'est aussi une mauvaise traduction, parce qu'ils n'ont jamais dit clairement épisodique, ils ont dit en plusieurs parties. Après, c'est aussi à eux de l'expliquer vraiment ce qu'ils entendent par plusieurs parties. Mais vraiment, ce n'est pas des épisodes de 3-4 heures comme... on a pu voir dans les jeux de Telltale ou Life is Strange, c'est vraiment de plusieurs parties, c'est un grand jeu découpé comme si c'était découpé en 3 CD, mais qui sort dans plusieurs années, quoi, finalement.
Ouais, c'est exactement ça, mais le problème, c'est que justement, les dégâts sont déjà faits.
Voilà.
Faut être clair dès le moment où on présente quelque chose, plutôt que d'éparpiller en fait, ces informations qui finalement peuvent déplaire. Moi, je préfère encore qu'ils nous annoncent directement les choses qui vont déplaire, quitte à nous décevoir au début, et puis finalement se rattraper progressivement avec de meilleures nouvelles. Parce que faire monter la hype et puis d'un coup balancer une mauvaise nouvelle, c'est pas terrible pour la communication. Mm-hmm. D'ailleurs, peut-être que Chenin aurait quelque chose à dire. À ce sujet.
Ouais, bah, effectivement, faire monter la hype, puis annoncer de mauvaises nouvelles, ça fait un effet montagne russe. C'est-à-dire que tu montes et puis tu redescends tout au fond d'un coup. C'est pas forcément l'idéal. Mais du coup, en fait, ce qu'ils ont, c'est essentiellement un problème de précision dans les informations qu'ils veulent apporter et dans les termes qu'ils utilisent pour les décrire. Et aussi, bien sûr, de quand balancer les informations. Quand balancer les informations. Après, bon, c'est quoi de plus. Tant que c'est vraiment eux qui gèrent leur communication. Bon, au moins, il y a que sur eux qu'on peut crier.
Toi, moi, je pense que... Ouais, vas-y, continue.
Je pense qu'il y a quand même une grosse différence culturelle. Hein. Encore une fois, je le précise, mais l'Asie et l'Occident, c'est carrément différent. Et quand on voit que Eidos, une filiale de Square Enix maintenant, communique différemment, rappelez-vous un peu de Deus Ex Mankind Divide, on avait tout un stream à suivre sur Twitch et on avait des morceaux progressivement toutes les X heures. Bon, malheureusement, la chose n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque je ne sais plus quel site avait craché le morceau. Mais
comme souvent.
Quand on jette un œil à la communication de ce que fait Eidos et ce que fait Square Enix, bah, c'est le jour et la nuit. Eidos maîtrise vraiment de bout en bout sa communication. Il n'y a pas vraiment d'impair dans ce qu'ils annoncent. Bon, on pourra toujours arguer que l'annonce de l'exclus temporaire sur la Xbox One avec Rise of the Tomb Raider, c'était pas terrible. Ok, c'est peut-être un faux pas, mais par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ben, écoutez, Square Enix, c'est un enfant. C'est un petit enfant qui fait plein d'erreurs, alors qu'Eidos, qui est finalement plus petit que Square, maîtrise sa communication de bout en bout. Moi, je trouve ça assez... assez éloquent, assez édifiant, et on voit vraiment la différence entre les deux mondes, entre le Japon et nous, donc l'Occident. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après, Eidos et Crystal Dynamics, la communication vise quand même vachement l'Occident, pas vraiment le public japonais. Et lorsque Square, enfin moi c'est après mon avis, mais lorsque Square doit lancer une communication sur Final Fantasy et tout, ils doivent aussi donner ce que les joueurs japonais veulent, et ce qui est totalement différent de ce que nous les joueurs occidentaux voulons. Donc ça peut poser des problèmes des deux côtés en fait. Moi je pense en fait, c'est comme ça que je vois les choses.
Alors là-dessus je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une claire polarisation entre l'Occident et l'Orient, et il faut adapter la communication pour l'Orient et pour l'Occident. Les Japonais adorent les spoilers, donc c'est pas pour rien que dans les magazines, il y a plein de spoilers, dans les vidéos, plein de spoilers, parce que chez eux, c'est juste une façon de dire « je veux savoir ce qu'il y a derrière », alors que chez nous, le spoilers, on le fuit comme la peste, parce qu'on a justement ce plaisir de la découverte. Après, je sais pas si Square Enix l'a compris, et je me demande aussi si Square Enix a compris qu'il existe différents canaux de communication.
C'est aussi très japonais, les magazines qui sortent des scans et tout, parce qu'on n'a pas ça, nous en Occident, les magazines qui ont des infos exclusives.
Avant, on avait ça.
On avait des sites à la rigueur. Ouais, avant Internet.
Avant, c'est ce qu'on avait. Avant Internet.
À la rigueur, on a des sites américains qui font des trucs exclusifs, qui ont le droit de sortir tel jour, mais ça c'est aussi maîtrisé. C'est pas comme les magazines qui sortent des scans, qui toutes les semaines, il y a un nouveau scan qui dévoile petit à petit le jeu. C'est vrai que c'est très très différent comme approche de communication. Ouais.
Ils devraient utiliser leurs antennes qu'ils ont en Occident, enfin à Londres ou en France, pour essayer de gérer la communication par rapport à ça, au lieu de balancer des choses. Et après, c'est au pays d'essayer de relayer sans que ça marche forcément. Moi, je pense qu'il y a un gros problème par rapport aussi aux antennes qu'ils ont en Europe. Ouais. Ils devraient faire un travail plus important entre.
Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ils utilisent quand même comme média principal Internet. Et Internet, c'est pas l'Orient ou l'Occident, c'est tout. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès qu'ils postent un spoiler, sur Internet, et ben l'Occident l'a aussi. Donc c'est sans doute aussi un problème de médias de communication qu'ils utilisent.
Je suis tout à fait d'accord à ce sujet-là, c'est que il y a différents canaux de communication, mais finalement, avec Internet, tous ces canaux de communication n'en forment plus qu'un. Quand quelque chose est au Japon, dans les heures qui suivent, on l'a chez nous. Après, je pense que à ce niveau-là, on ne peut rien y faire. Enfin, je pense que Square Enix ne peut rien y faire parce que
ils ont adapté leur communication pour le Japon, donc plein de spoilers. Nous, on ramène ce qu'ils ont balancé pour les Japonais. Donc, quelque part, c'est aussi de notre faute d'être spoilé.
J'avoue, c'est ma faute.
Ouais.
Après, c'est inévitable. Hein, c'est Twitter, c'est Facebook, ça va très vite. On a pas trop le choix.
Après, ils ont aussi la télé comme canal de communication. Et sans doute que les traders qui passeraient sur la télé agiraient un peu moins vite sur Internet.
Ouais.
Après, c'est pas à moi de les conseiller sur du marketing.
Après, est-ce que la télévision est encore beaucoup utilisée, enfin, surtout au Japon? Je veux dire, l'écran principal, c'est... L'écran principal au Japon, non, ça reste quand même le smartphone.
C'est le mobile, ouais.
Bon, après, il y a les trailers qui sont exclusifs à certaines presses ou certains publics qui sont cachés et qui dévoilent que quelques mois plus tard en public. Le problème, c'est qu'après, il y a aussi des fuites, donc c'est compliqué à gérer, à garder secret. C'est toujours compliqué avec Internet, de toute façon, de ne pas dévoiler un jeu.
Le jeu vidéo actuellement, ça, même c'est comme pour le cinéma, les fuites ou les genres de choses, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas forcément par rapport au studio, c'est pas eux qui veulent la fuite. Bon.
Après, sur Square, ils sont aussi assez frileux parce que surtout sur FF15, ils ont une pression énorme. Donc forcément, ils savent pas trop quoi dire, ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent dire ou pas. C'est très frileux, c'est très maladroit. Ils ont trop de pression là-dessus, donc c'est vrai que c'est pour eux, on est au tournant. Quoi. On regarde tout, on critique tout. C'est compliqué.
Ils peuvent pas prendre trop de risques. Il faut absolument que Final Fantasy XV marche.
Et, oui.
Et pour qu'il marche, il faut autant que ça plaise à la fanbase qu'au grand public. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'à partir de mars, la communication change et qu'elle visera un public différent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils vont faire appel à des journalistes très en vogue, on va dire, de notre côté. Et puis, bon, il faut quand même leur donner un bon point, c'est qu'ils se sont tournés vers quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on fait de la présentation en live, on fait des directs, il n'y a pas le filtre critique du journaliste, et forcément, ça touche directement la personne concernée, et si Square Enix tape juste, forcément, la personne qui est touchée va acheter. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la communication est plutôt réussie. Mais là, ça reste de la théorie. On verra mieux ce que ça donnera en mars, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce choix du stream en live, de choisir des têtes, on va dire, plutôt notoires dans la presse, est-ce que c'est un bon choix?
Tu parles de l'événement qui aura en mars, où ils ont fait des présentateurs américains assez connus, non?
C'est ça.
Je pense que l'événement il va être vraiment important et c'est un moyen d'attirer le plus de personnes. Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de situation et ce genre d'initiative d'inviter des personnes assez connues pour présenter, pour annoncer la date de sortie.
Là, ils en font un vrai show à l'américaine. Là, c'est vraiment... Pour eux, c'est l'événement. En même temps, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Pour eux, c'est vraiment l'événement de...
Ils doivent le vendre aussi.
À ne pas rater.
Ouais. Ils doivent le vendre, donc c'est tout à fait honorable. Enfin, moi, personnellement, qu'ils le fassent. Ils ont toutes les raisons et j'espère qu'il marchera.
Et puis, je pense que là-dessus, on aura plus qu'une date. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont être dévoilées. Beaucoup de... Peut-être des surprises aussi. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'assez énorme.
Ils vont sortir l'artillerie lourde. Hein. Là, il faut vraiment marquer les esprits.
Parce que personnellement, je voulais rapidement plus donner mon avis sur la TR. J'aurais peut-être dû parler un peu plus tôt, mais j'apprécie beaucoup l'initiative. Mais à force, je ne suis pas vraiment fan du principe. En fait, surtout du contenu, par exemple, chaque mois, on nous a présenté des. À un moment, on nous a parlé que de Du Sky. Et franchement, on en a eu marre à force. C'était rébarbatif, c'était toujours voir la petite brindille qui bouge, le petit corbeau qui se... le petit chocobo, le poisson. Regardez, on s'est amélioré et tout. Maintenant, notre personnage, il peut marcher et pêcher. Waouh.
Bon,
Les grenouilles, non mais c'est...
Exceptionnel.
Franchement, ils auraient dû concentrer et faire quelque chose, peut-être moins d'ATR, mais avec plus de contenu, avec des contenus beaucoup plus intéressants, avec vraiment du concret. Parce que franchement, on attend tous les... Enfin, c'est pas tous les mois, mais on attend la TR et à chaque fois, c'est pour voir...
Il y en a eu des plus ou moins décevants, notamment celui de la Gamescom qui a été très décevant, je pense.
Voilà.
pour tout le monde.
Mais... Encore une fois, ils n'ont pas été très clairs dans leur message. Ils ont dit la véritable communication du jeu va commencer, alors qu'en fait, ouais, la véritable communication, si on en croit ce qui a été dit par Tabata, elle va vraiment commencer qu'en mars. Et c'est là ça. Où on va essayer de séduire le grand public. Mm-hmm. Effectivement, la vraie communication, c'est en mars, c'est pas à la Gamescom. Et vu ce qu'ils nous ont servi à la Gamescom, véritable communication. Ah ouais, wow, ça refroidit quoi.
C'était très décevant à Gamescom, c'était un très très court trailer, les informations pas super réussies. Et... Surtout pour un événement comme la Gamescom, qui est comme le plus gros événement européen, et ils avaient promis des choses. Pour derrière nous dire en plus qu'ils ils pensaient pas qu'on attendait autant de choses. C'est un peu mauvaise foi, je trouve.
Les schizophrènes aussi, ils disent ouais, vous inquiétez pas, ça sera le meilleur événement par rapport à FF15. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu le monstre, non?
Bah, on a vu le Morbol tout à l'heure, quoi.
Le Morbol, un peu.
Et le Morbol, ouais.
On a vu le Morbol, voilà.
Mais après l'air de quelques secondes.
Très, très cool. Et en plus, ils ont sélectionné des questions, mais il y avait quand même des questions très anecdotiques. Hein. Bah, pour le coup, c'était là un cas d'école, les erreurs à ne pas faire.
Ils se sont rattrapés
en janvier.
Ils ont fait la table.
Et oui, mais c'est assez drôle, finalement, très comique de voir qu'un événement comme Gamescom, qui est un événement important, fait moins bien que des événements beaucoup plus, plus petits, et qui finalement nous en apprend plus, et finalement nous en met plus plein les mirettes, parce que bon, bah, je me souviens, quand on a vu la petite virée en voiture, c'était pas grand-chose, mais par rapport à la Gamescom, c'était tellement mieux, et finalement c'était pas grand-chose, c'était vraiment pas grand-chose, et ça fait mieux. Bon, je pense que maintenant Square Enix a un peu compris quelles étaient les erreurs à ne pas faire, parce que bon, quand on voit un peu ce qu'a donné le dernier ATR, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi la hype a grimpé en flèche, et je trouve même que c'était le meilleur. C'était même le meilleur de mon point de vue.
Oui, personnellement moi aussi j'ai pas juste apprécié la période du Sky, parce que personnellement j'avais peur de l'orientation qu'allait prendre le jeu. Mais là, j'avoue que le dernier trailer était vraiment, vraiment impressionnant. En tout cas, c'est vrai que la hype, elle remontait d'un seul coup. Moi, je m'étais vachement refroidi sur le jeu.
Le dernier trailer était très axé sur l'action infiltration, pas tellement sur le RPG. C'était paradoxal, mais pourtant, ça a beaucoup plu.
Ça a beaucoup plu.
C'était plus original. C'était plus,
ça monte la diversité du jeu aussi.
C'est ça. Moi, ce qui m'avait plu, c'était de voir un nouveau décor. C'était surtout ça.
Oui. Tout à fait. Ouais, franchement... Il y a un nouveau personnage aussi, enfin, qu'on a déjà vu, mais qu'on a vu
voilà,
plus longuement.
C'est ça, ouais. Bon, on l'a vu.
Et puis des mécaniques de gameplay plus abouties aussi. Ouais. On a vu la magie, etc. Quand même. Ouais. Quelque chose qui manquait. Donc vraiment, je m'attends à ce que le mois de mars soit significatif en termes de communication et qui devrait marquer vraiment les esprits. Enfin, on l'espère.
Mm-hmm. Ils ont intérêt. Ouais.
J'aimerais savoir... l'avis de Shinig, vu qu'il n'attend pas tant que ça FF15 par rapport à nous. C'est un petit peu ce que tu penses de la communication sur ce jeu.
Alors, qu'est-ce que je pense de la communication sur ce jeu? Déjà que...
T'en attends aussi.
Ouais, en fait, ils ont commencé par nous en mettre plein les mirettes, mais ça date d'il y a 10 ans.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, ils ont commencé par nous en mettre plein les mirettes, et puis après, il fallait garder le niveau. On continue à en mettre plein les mirettes, on continue à montrer beaucoup de choses, et continuer à montrer un peu plus dans les détails, les détails de leur prouesse technique, la pêche, où bon, ouais, il y a un poisson, c'est cool. Voilà, et. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment montrer à quel point leur jeu est beau. En tout cas, ça c'était donc avant le.
Et grand aussi.
Et oui, et grand. Alors, et grand, pour le coup, je rappelle quand même une annonce qu'ils avaient faite. Alors, je ne sais plus si c'était du temps de Versus 13 ou de FF15. Ils voulaient que ça soit. Qu'il y ait plus de contenu que Skyrim. Je leur souhaite beaucoup de courage.
C'était en 2013, si je dis pas de bêtises. C'était après
le changement
de nom.
Ouais.
Voilà. C'était ça.
Vous parlez de contenu ou de taille de map?
En map, je pense.
De map. Je pense pas en termes de contenu, parce que.
En plus, c'est dur. C'est très dur.
C'est pas là-dessus, c'est compliqué. Faire des quêtes FedEx.
Non, c'est pas pareil. Il y avait vraiment un scénario à suivre et tout. C'est différent. C'est pas
ouais, quand même.
Voilà, là, pour l'instant, du peu que j'ai pu voir, parce que je vous avoue que j'ai pas vu toutes les vidéos sur FF15, puisque j'ai tout simplement pas la console pour le faire tourner.
Mais de ce que tu as vu, ça, quand même, ça te donne envie ou ça te fait
ça différent ? Je me dis que c'est un jeu très orienté exploration. Et que ça monte pas d'un coup d'une exploration très tranquille à des phases d'action un peu plus, un peu plus brutasses. Ça fait un peu le jour et la nuit dans le même jeu. C'est
surtout que t'es très axé à RPG à l'ancienne, j'ai l'impression.
Oui, aussi.
Là, c'est vraiment différent.
Voilà, pour ce coup, c'est sûr que rien que pour ça, il m'intéresse déjà un peu moins. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc ils étaient donc à chaque fois, on en a un peu plus. Enfin, ils essaient de nous en mettre un peu plus dans les mirettes, sauf qu'au bout d'un moment, on peut plus. Ça peut plus. Et effectivement, on commence de ce qu'ils nous en montrent, on commence à voir les. On commence à voir un peu les défauts de ce qu'ils ont dit. Par rapport à ce qu'ils nous montrent.
Ouais.
Moi, ce que j'aimerais quand même rajouter là-dessus, c'est que finalement, Tabata, en termes d'honnêteté, il est quand même. Je trouve plutôt bon parce qu'il préfère quand même nous montrer des choses peut-être qui paraissent un peu moins tonitruantes quand on nous leur sert dans plein de trailers des derniers AAA. Mais d'un autre côté, il te dit, voilà, dans mon jeu, il y a des choses bien, et puis des choses un peu plus bucoliques, un peu plus posées, mais tu as les deux. Donc ça, si tu aimes les phases d'action, tu auras tes phases d'action, et si tu veux juste te la poser, te balader, tu peux aussi. Donc quelque part, je pense pas que ce soit le genre de personne à dire, regardez, je vous en mets plein les mirettes, juste pour vous en mettre plein les mirettes, et finalement vous cachez un peu toute la misère derrière, parce que finalement... Quand on regarde un jeu comme The Witcher 3, qui a été énormément hypé, quand on le décortique d'un point de vue ludique, y a beaucoup de quêtes FedEx, il y a beaucoup de villages qui se ressemblent. Ok, c'est beau, mais voilà, quoi, il y a juste de l'exploration.
C'est aussi la différence entre RPG occidental et RPG japonais.
Bien sûr.
Aussi, ouais. Mais on va dire, le seul point fort finalement de The Witcher, c'est sa narration, mais pour tout le reste. Voilà, ouais. C'est peut-être pas si bien que ça, quoi. D'ailleurs, je pense que ce sera peut-être ma dernière intervention à ce sujet, mais il faudra peut-être mettre Final Fantasy XV et peut-être même la communication de Square Enix en perspective de tout ce que fait l'industrie du triple A. C'est que finalement, pour exister, aujourd'hui, il faut communiquer, quitte à ce que ça devienne une sorte de boulimie de l'information. Je sais pas trop ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que moi, je vous laisserai la parole. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on annonce un jeu, déjà on l'annonce 2 ans, voire 3 ans à l'avance, et de l'annonce jusqu'à la sortie du jeu, finalement on va te sortir que des trailers, on va te matraquer juste pour pas que tu oublies que mon jeu il existe. Et ça peut être finalement... Ça, le problème d'aujourd'hui, c'est que Square Enix, peut-être qu'il n'a pas encore compris ce jeu-là, pour nous intéresser, va finalement nous mettre des éléments un peu trop sensibles. Et finalement, c'est peut-être juste une erreur de débutant. Et on peut juste espérer que Square Enix ne fasse plus ce genre d'erreur. Voilà.
Figure de classique comme Square Enix comme étant débutant, quoi. Enfin, c'est ce que ça dit, mais...
Sur FF15, ils font quand même beaucoup d'erreurs de débutants. Ça,
quoi. Oui.
Mais en même temps, il y a eu des problèmes de développement et des retards. Et des départs aussi, on peut parler de Nomura qui est parti, sans trop d'explications. Peut-être un manque de transparence là-dessus aussi, peut-être que les joueurs voudraient en savoir plus.
Sur le cas de Nomura ?
Sur le cas de Nomura, sur le cas des changements d'équipe, des changements de... Tous les changements internes, c'est très secret, c'est très... Bon, c'est japonais aussi de cacher ça, mais... Après, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui tournent, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Hashtag Konami.
Voilà, c'est...
Hashtag Konami.
C'est le même genre.
C'est vrai que...
C'est du... Ouais, enfin, non, vas-y, tu m'en as
Non, mais c'est... Je pense que Fnatic a tout à fait raison.
Il y a un petit manque de transparence à ce sujet quand on te dit que Nomura doit travailler sur KH3 et que quelques mois plus tard on te dit non, mais finalement il est réalisateur sur le remake de FF7. Bah, pourquoi l'avoir retiré de Final Fantasy XV qui était son jeu à la base? Et pourquoi avoir viré Matsuno? Dire qu'il était malade.
Sur FF12.
Final Fantasy XII, hein, rappelez-vous. Hein, voilà.
Exactement. C'était... Après, les gens sont pas dupes, hein, je pense. Quand un jeu est trop loin à développer, c'est normal de changer des choses. C'est dans toutes les entreprises, c'est pareil. Donc, c'est... Bon, on va leur en vouloir pour ça.
Bah, c'est vrai que personnellement, je pense que. Bah, bon, c'est assez personnel. Bon, après, c'est vrai que dans... j'ai pas trop une vision en termes d'entreprise, mais je pense que ça serait quelque chose qui devrait clarifier, ou en tout cas dès le début, dès qu'il y a ce genre de situation, dès qu'on change de directeur, dès qu'on change d'équipe et tout. Je pense que c'est des choses à clarifier, une raison pourquoi telle ou telle chose. Pour au moins pas frustrer le fan ou le joueur, ou le public, parce que personnellement, ouais. Moi, justement, quand j'ai reçu l'annonce où Nomura a été, enfin, pas viré, mais comme quoi il n'est plus directeur, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu.
Surtout Nomura qui est très apprécié par les fans, c'est vrai que ça faisait peur. Même si Tabata sur le coup avait une bonne hype derrière lui, avec TF0, il était apprécié.
Il avait fait deux, trois bons jeux, mais sinon, c'est pas.
Score aussi.
Voilà, ça, deux, trois bons jeux, c'est pas la prestance de Nomura, donc, et c'est pas non plus lui qui a créé l'univers, en tout cas, c'est pas son équipe.
Voilà.
Il reprend un flambeau et c'est justement ça qui faisait peur.
C'est ça. Mais alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est surtout une communication beaucoup plus saine de la part de Square Enix. Là, on a parlé quand même de Final Fantasy XII, Final Fantasy XV, c'est quand même deux cas spéciaux. C'est pas la généralité, hein. On peut regarder tous les autres projets qui sont quand même plutôt clean là-dessus.
Ce sont deux jeux qui ont mis très longtemps à être développés, hein, forcément. C'est très coûteux, donc il faut faire des changements, c'est normal.
Et qui ont connu aussi des problèmes de développement assez importants. Ouais. C'est pas le cas de tous, heureusement. Et on espère que ce sera pas le cas des prochains épisodes. Moi, en tout cas, tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que Square Enix choisisse une communication plus saine. Pas forcément calqué sur celle des AAA actuels où, comme je vous ai dit, on nous matraque de trailers, d'informations juste pour dire que le jeu existe, mais plutôt quelque chose comme on l'a avec Final Fantasy XIV. Bon, peut-être pas dans cette mouture là, mais une autre qui s'y prête mieux, mais surtout qu'ils apprennent de nouveau à nous faire rêver comme ils nous faisaient rêver avant.
Ouais, la petite magie qui manque, le suspense,
le petit rêve de Noctis.
Bon, on verra tout ça au mois de mars, on aura l'occasion d'en reparler, on fera une autre émission d'ici là et on espère qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à traiter et enfin un vrai lancement de communication et de marketing plus intense et plus et voilà, qui donne envie à tous les joueurs de fan de FF ou pas d'ailleurs, tous les joueurs de jeux vidéo en général.
Bon.
Autre chose à ajouter, les amis?
Je suis hypé pour le mois de mars.
Ah, moi aussi, personnellement, j'attends avec impatience et j'espère vraiment que Square Enix. Franchement, j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à FF15. Je voudrais vraiment revoir l'entreprise.
Pour eux, on espère tous. Hein.
Revenir au top niveau.
Ouais, pour eux, on espère tous parce que ce sera vraiment catastrophique si le jeu.
C'est ça, en fait.
Un échec. C'est... Même si derrière ils ont FF7 pour assurer le coup, ce sera quand même catastrophique, je pense.
Oui, si FF15 est un flop, ça va aussi être un coup sur FF7.
Bah, c'est surtout pour l'image de l'entreprise que c'est très mauvais finalement. Square Enix n'est plus capable de faire un Final Fantasy.
Bon, c'est triste à dire.
Ce serait triste.
Ce serait terrible. Bon bah merci. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'était super enrichissant et super intense.
Sur une note dramatique.
Ouais.
Ce débat sur une note dramatique.
Je vais demander quand même à ce que Schring mette plus de patates à la communication de Square Enix.
Schring, un dernier mot là pour
En fait, le débat tournait beaucoup autour de FF15. Et ouais. C'est pas mon domaine pour le coup.
Bah pour le coup, tu veux dire autour sur la communication en général peut-être, c'est intéressant.
Une anecdote. Une anecdote, un petit mail qu'on avait reçu en tant que newsmaker, qui nous avait dit voilà, est-ce que vous pouvez faire la communication sur ce jeu-là pendant que nous on fait la communication sur un autre jeu. Je n'avais pas trouvé ça très très sympathique de leur part.
C'est un peu un appel d'impuissance. Et puis même nous, au niveau de la communauté, ils n'ont pas à nous dire quoi faire ou quoi, donc c'est leur boulot à eux de communiquer, c'est pas à nous de le faire. Nous, finalement, on décide de ce qu'on fait, vu que c'est notre libre arbitre de rédiger ou pas, donc c'est vrai que c'est assez étrange. Ouais. Après, ils comptent beaucoup sur la communauté, hein. Square Enix en général, ils comptent beaucoup sur la communauté. Nous, en tout cas, en France, on le sait, on a beaucoup de sites qui marchent très très bien et qui ont beaucoup de gens qui les suivent. Ils comptent beaucoup sur nous.
Salut,
d'ailleurs. Ouais, salut tous. Ils comptent beaucoup sur nous pour parler de leur jeu. Hein. On fait partie de leur chaînon, quoi. Ils en jouent pas mal. Mais bon, ils ont raison en même temps.
Quoi de mieux pour vendre leur série que les fans?
Exactement. C'est eux qui en parlent le mieux, finalement. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on a tout dit sur ce grand débat de communication. Parfois difficile et parfois mieux. On verra dans le futur. Hein. Il y aura forcément d'autres FF et d'autres manières de communiquer. On espère que ça va forcément s'améliorer. On verra ça.
De toute manière, on se retrouve tous pour mars, quoi.
Ouais, voilà, on verra bien. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, sur FF15. On a hâte, on se frotte les mains.
On prie la bonne étoile et on va voir ce que...
J'aimerais bien avoir un billet d'avion pour Los Angeles.
Ah bah ça, on aurait aussi y être, je pense.
Oui, voilà.
Ah. Et malheureusement.
Tantôt on va le suivre en pleine nuit très très tôt. Ça va être
compliqué. Très très tôt, ouais, 4h du matin.
Va falloir qu'on réveille.
Ah bah là, je pense que là, au taquet. Bon les gars, merci à vous, merci à Noctis pour tes analyses sur FF15, toujours aussi pointu.
Ah, j'ai beaucoup parlé, désolé.
Ça c'est la passion qui parle, hein.
Non. Même temps, attends, regarde ton pseudo.
Non, c'est pas vrai.
Non, pas du tout.
Il a toujours été bavard, Noctis, sur tous les sujets.
Ah, on t'aime pour ça.
Ah, merci, trop d'amour.
Merci Mister Club pour ta nouvelle apparition.
Mon apparition, merci, mais de rien.
On se retrouve quand tu veux, hein, c'est toujours un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission.
Pas de soucis.
Et merci pour la première émission de Shring, si t'arrives jamais à le dire.
Schrödinger.
On va changer ton pseudo sur Finland, je pense, on va t'appeler Patrick ou Richard, parce que c'est un peu
non.
En tout cas, merci beaucoup de ta présence, hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles voix dans l'émission.
Moi je vous remercie à tous de m'avoir proposé déjà.
Bah, tu reviens quand tu veux, franchement, c'était un plaisir.
Bah de même.
Et puis, des patates.
On va tous revenir pour en mars, tu verras.
On va venir à 15.
Allez, à 15. Ouais.
Et puis merci évidemment à vous de nous avoir écoutés, de continuer à nous suivre aussi nombreux sur le site et de nous donner votre appui pour qu'on continue à donner notre meilleur. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur le site, notamment une rubrique sur FF Explorer, qui nous prépare évidemment. Des dossiers, des tests, toutes les news jour après jour sur l'actualité de Square Enix. Donc continuez à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et nous, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la prochaine. Et ciao les gars! Merci!
Salut tout le monde!
Salut, ciao!
Bye!